Le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition du magazine des Nations Unies de cette année. Et voici donc le sommaire. Élection RDC, impliquer la police judiciaire dans le processus, c'est l'objectif que s'est assigné UNPOL, la police de la MONUSCO, mais également la PNC, la police nationale congolaise. Un séminaire a été organisé à cet effet, les détails ce sera dans cette édition. À propos de la RDC, le Conseil de sécurité des Nations Unies très inquiet de l'évolution de la situation politique, sécuritaire et humanitaire. Les 15 ont exprimé leur inquiétude, c'était le 16 janvier dernier dans une déclaration publique. Enfin, un invité dans ce magazine, Claude Jibidar, le représentant du programme alimentaire en RDC, plaide pour l'élaboration d'une politique nationale des cantines scolaires.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. UNPOL, la police de la MONUSCO et la police nationale congolaise s'engagent à impliquer la police judiciaire dans la sécurisation du processus électoral en République démocratique du Congo. Un séminaire s'est tenu cette semaine à Kinshasa dans cette optique. Honoré Missenga Kalala a couvert cet événement pour Mag UN.
Tous les officiers et sous-officiers de la police judiciaire de la ville de Kinshasa ont pris part à ce séminaire et ceux-ci devront à leur tour faire la restitution dans leurs unités respectives pour que tous s'impliquent dans la sécurisation des élections. Le général Awale Abdounassir, chef de la police de la MONUSCO, motive ici la tenue de ce séminaire.
Nous avons constaté, au regard de l'évaluation qui a été faite dans le passé, de la nécessité d'associer la police judiciaire, particulièrement sur la constatation des infractions. Nous avons remarqué également, lors de ces manifestations, il y a des incivilités qui ont été posées, mais il y a eu des manquements au niveau de la constatation des infractions, raison pour laquelle nous avons estimé, avec la police nationale congolaise, de travailler avec la police judiciaire pour insérer la coordination de la police judiciaire dans les efforts que la police nationale congolaise mène pour la sécurisation des élections.
Le commissaire général adjoint de la police nationale en charge de la police judiciaire, Jean Baelongandi, de renchérir.
Chaque fois qu'il y a une élection, il y a toujours des faits infractionnels qui sont commis. Alors, ces faits doivent être réprimés. La mission de la police, c'est de prévenir que les gens ne commettent pas les infractions. Lorsque les infractions sont commises, il revient à la police judiciaire de s'impliquer et de sanctionner. Voilà ce que nous attendons de ces moments de réflexion pour que toutes les composantes puissent s'impliquer pour que vraiment les élections dans notre pays se passent sans incident.
Au-delà de l'implication dans la sécurisation des élections par la prévention et la répression, la police judiciaire de la RDC a aussi besoin d'un appui logistique pour lutter contre la cybercriminalité, le général Baelongandi.
UNPOL, c'est un partenaire très très important qui nous soutient techniquement et sur le plan financier aussi. Maintenant, nous avons un besoin en ce qui concerne le matériel et surtout dans les domaines technologiques. Nous avons une nouvelle direction de la lutte contre les nouvelles technologies et la cybercriminalité. C'est cette direction qui a besoin d'un équipement afin de pouvoir maîtriser un peu ces domaines.
Autre fait d'actualité de la semaine, c'est cette inquiétude exprimée mardi dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU au sujet de la situation politique, sécuritaire et humanitaire de la RDC toujours préoccupante. Retour à Honoré Missenga Kalala.
C'est à la suite de l'exposé fait le 9 janvier dernier par le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix Jean-Pierre Lacroix. Les 15 membres du Conseil de sécurité ont ainsi fait part de leur inquiétude face à la poursuite de l'impasse politique et aux violences perpétrées contre des manifestants à Kinshasa et dans d'autres villes de la RDC le 31 décembre 2017. Tout en regrettant les pertes en vies humaines lors de ces violences, le Conseil de sécurité demande aux autorités congolaises d'enquêter d'urgence sur le recours disproportionné à la force contre des manifestants pacifiques par les services de sécurité et de traduire rapidement en justice les auteurs de ces actes. Concernant le processus électoral, le Conseil de sécurité s'en tient toujours à l'accord du 31 décembre 2016 qui reste, souligne-t-il, la seule voie viable pour sortir la RDC de sa situation politique actuelle. À ce propos, le Conseil se dit déterminé à agir en conséquence envers tous les acteurs dont les déclarations entraveraient la mise en œuvre de cet accord et l'organisation des élections selon le calendrier publié.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Une fois n'est pas coutume, le Mag UN revient dans cette rubrique sur l'entretien que le directeur pays de l'ONU-SIDA nous a accordé. C'était en marge de la journée mondiale de lutte contre le VIH-SIDA et c'était bien évidemment en décembre dernier. C'est avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Marc Saba, bonjour.
Bonjour.
Les derniers rapports de l'ONU-SIDA parlent des remarquables progrès dans les traitements du VIH. En quoi consistent ces progrès remarquables ?
Merci de me donner l'occasion de partager avec vous les progrès qui ont été accomplis dans la lutte contre le VIH-SIDA, depuis bien sûr la création de l'ONU-SIDA et depuis aussi l'engagement de la communauté internationale à faire du SIDA une priorité et de travailler à aider les pays à mettre fin au VIH d'ici 2030. Ces progrès sont entre autres d'abord l'accès au traitement, je crois que ça c'est important. Et nous sommes aujourd'hui à plus de 21 millions de personnes qui sont sous traitement antirétroviraux. Et le traitement, c'est en même temps la prévention. Parce que les personnes qui bénéficient d'un traitement et qui le respectent ne transmettent plus la maladie. L'autre élément de progrès, c'est les nouvelles infections. Donc, il y a réellement une réduction sensible des nouvelles infections dans beaucoup de pays. Et globalement, on parle de 47% de réduction. Un autre élément important, c'est l'engagement financier. La communauté internationale a mis en place des mécanismes pour soutenir la réponse au SIDA. Nous avons le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Au niveau bilatéral aussi, des partenaires qui appuient fortement la réponse au SIDA et bien sûr des États aussi qui engagent des ressources et des personnes qualifiées pour donc apporter une réponse efficace au VIH-SIDA.
Et qu'est-ce qu'il en est de la République démocratique du Congo ?
Je dois dire que la RDC vient de loin. Si nous regardons un peu les statistiques, en 2010, la couverture en matière de traitement antirétroviral était de 10%. Et la couverture en matière de prévention de la transmission de la mère à l'enfant était autour de 8%. Au jour d'aujourd'hui, la RDC a réalisé pratiquement 50% de couverture en matière de traitement antirétroviral et 70% pour ce qui concerne la prévention de la transmission de la mère à l'enfant.
Certainement, on a enregistré des progrès, mais les défis en RDC, c'est quoi justement pour l'instant ?
Oui, il y a d'abord le défi de créer un environnement favorable, à savoir travailler pour réduire la stigmatisation et la discrimination. Parce que malgré les efforts, même si les services sont disponibles, dans un environnement où il y a la discrimination et la stigmatisation, les gens auront des difficultés pour accéder au traitement. Et justement, les personnes les plus touchées, en général, c'est les personnels qui souffrent de marginalisation. Donc, il y a un travail à faire pour que les services de prévention de traitement de VIH puissent bénéficier et soient étendus à ces personnes-là. L'autre aspect important, c'est les défis aussi de la coordination. Il faut une meilleure coordination de la lutte. Il faut également travailler sur des programmes qui soient efficients. C'est vrai, le pays a bénéficié de l'appui de la communauté internationale en matière de financement, c'est important. Le pays lui-même apporte des dons de financement domestique, les ressources de l'État, mais il faut qu'on s'assure que ces fonds sont utilisés de façon efficiente. Donc, je crois que ce devoir de redevabilité doit être renforcé et pour nous permettre d'avoir plus de résultats en termes, disons, de mise en œuvre des programmes et donc de lutte contre le VIH-SIDA. Il y a des défis structurels aussi. Parce que, bon, on ne peut pas aussi réussir la lutte contre le SIDA dans un environnement où, par exemple, le système de santé n'est pas encore performant. Je crois que ça, il faut le reconnaître. Et ça, bien que les programmes de lutte contre le VIH permettent aussi de renforcer le système de santé, il y a un effort à faire à ce niveau. Je pense que les autorités sont vraiment conscientes et travaillent justement à renforcer le système de santé qui va certainement bénéficier à l'ensemble des maladies. D'autres aspects aussi, c'est des aspects liés par exemple à tout ce qui est le circuit d'approvisionnement en médicaments, en ARV, en intrants. Bien sûr, globalement, le circuit d'approvisionnement et distribution doit être aussi amélioré et renforcé. Parfois, il y a des médicaments qui se retrouvent dans les entrepôts alors que dans certains centres de dispensation, on n'a pas ces médicaments. Donc, c'est comme s'il y a des ruptures vite qui sont virtuelles. Donc, il y a une nécessité d'avoir un système qui permet de monitorer, de suivre et de tracer les médicaments. Donc ça, c'est des situations, à mon avis, au niveau opérationnel, il y a quelques dysfonctionnements qui méritent qu'on essaie de voir de près et d'adresser ces dysfonctionnements-là pour permettre donc d'aller de l'avant. Mais je pense, au regard disons, des tendances actuelles, que la RDC est sur la bonne voie.
Oui. Autre question pour terminer, c'est la prévalence au milieu des jeunes et des adolescents. Est-ce que l'ONU-SIDA en République démocratique du Congo a une stratégie pour lutter contre la prévalence du VIH au niveau des jeunes?
Une stratégie nationale pour justement cibler et prendre en compte les besoins spécifiques des jeunes et des adolescents. Et je conviens avec vous qu'effectivement, cette tranche de la population est la plus vulnérable. Et justement, c'est parmi cette tranche de la population que les nouvelles infections sont importantes. Et ça, c'est extrêmement important que justement dans l'approche, et cela a été pris en compte, qu'on définisse les besoins des jeunes, que aussi les jeunes aussi soient responsabilisés dans la réponse au VIH. Un élément important aussi, toutes les stratégies de mobilisation des fonds, on doit s'assurer, et je pense que la stratégie prend cela en compte, que des fonds soient alloués spécifiquement sur les stratégies et sur les programmes qui prennent en compte les besoins spécifiques des jeunes.
Monsieur Marc Saba, je vous remercie.
En plus bref, Dr. Céline Houghton est le nouveau représentant en RDC du Fonds des Nations Unies pour la Population, FNUAP en sigle. Il a pris officiellement ses fonctions le 11 janvier dernier. C'était en présentant ses lettres de créance au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, Léonard Cheokitundu. Monsieur Céline Houghton est d'origine béninoise. Il remplace à ce poste la Guinéenne Diène Keïta Famanda à la tête du FNUAP RDC en juin 2017. Concernant le commandement de la force de la MONUSCO, le général sud-africain Ngwebi est arrivé fin mandat après 2 ans de travail comme commandant de la force de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Il s'est adressé lundi 15 janvier dernier à Goma aux officiers de son état-major pour demander encore plus de travail et plus de collaboration des troupes sur le terrain. En attendant la nomination de son successeur, l'intérim du commandement de la force de la MONUSCO sera assumé par le général français Bernard Cummins. Enfin, sensibilisation à la protection de l'environnement. Nous sommes au camp des réfugiés burundais de Lusenda, en territoire de Fizi au sud Kivu. Le club RFI de ce camp a lancé jeudi dernier des travaux de plantation des espèces de plantes appelées tribuscum. Et c'est pour lutter contre les érosions. Cette initiative du club RFI du camp de Lusenda vise donc la protection de l'environnement et fait suite aux dégâts importants causés après les pluies diluviennes qui s'abattent sur la région. Emmanuel Ntirapemba, président de ce club, appelle tous ses compatriotes réfugiés hébergés sur ce site à s'impliquer activement dans cette activité de reboisement qui s'effectuera chaque jeudi dans ce camp.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le programme alimentaire mondial, PAM, mène depuis quelques années un programme d'alimentation d'urgence ou des cantines scolaires, notamment dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika. Le 11 janvier, le représentant de cette agence en RDC a signé avec l'ambassadeur du Japon une note technique relative à un don en nature de ce pays destiné à nourrir dans le cadre de ce programme 45 000 écoliers. Monsieur Claude Gibidard est l'invité du magazine des Nations Unies de ce dimanche. Il s'entretient ici avec Honoré Missenga Kalala. Suivez leur entretien.
Monsieur le représentant, bonjour.
Bonjour.
Vous avez signé la semaine dernière avec l'ambassadeur japonais une note technique d'un don du Japon au programme des cantines scolaires que vous gérez pour nourrir pendant une année 45 000 élèves. Ce don constitué de 1596 tonnes de riz est-il déjà arrivé à destination ?
Non, il n'est pas encore arrivé à destination. Il est prévu que ce tonnage de riz arrive en RDC au mois de septembre de cette année. Cela nous permettra alors d'utiliser cette donation pour les activités de cantine scolaire pour les élèves qui seront à l'école en 2018-2019.
Dans votre mot, au cours de la cérémonie, vous avez émis le vœu d'étendre votre programme dans d'autres provinces, notamment dans la région du Kasaï. Quelle est la situation de la cartographie actuelle de cette assistance?
Vous savez, nous avons différents types d'assistance en différents endroits, mais pour ce qui concerne les cantines scolaires en particulier, c'est une activité que nous menons en ce moment au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Tanganyika, dans le Haut Katanga et en Ituri.
Et combien d'écoliers au total en sont bénéficiaires?
Pour le moment, c'est environ 200 000 élèves au total dans toute cette région. Et cela couvre environ 320 écoles. Et je peux rajouter que sur ces 200 000 élèves, 48% sont des filles.
48% des filles. Et quel est l'impact de cette assistance alimentaire sur les enfants?
Ce que nous avons déjà remarqué, en fait, nous avons fait le suivi et avons réussi à épingler les chiffres, c'est que cela permet déjà un taux de rétention de 93%. C'est-à-dire que sur 100 élèves qui vont à l'école, 93 d'entre eux restent pour continuer leur scolarité. L'autre chose, c'est que ces enfants, pour un certain nombre, ne sont plus obligés d'aller travailler. Vous savez comment ça se passe? Les enfants, on les envoie à l'école. Au bout d'un moment, on a besoin de main-d'œuvre. On fait sortir ces enfants pour qu'ils viennent travailler. On a aussi remarqué que leurs capacités d'apprentissage sont renforcées. Vous vous doutez bien, un élève qui est à l'école et qui a le ventre creux et qui a faim est un élève qui probablement n'entendra pas, n'écoutera pas, n'aura pas l'attention nécessaire pour apprendre, aussi bien qu'un enfant qui a mangé.
Au-delà des élèves, est-ce que les enseignants bénéficient-ils également de ce programme de cantine scolaire?
Oui, ce programme prévoit que les enseignants reçoivent aussi un repas en même temps que les élèves dans l'école.
Donc plus de 200 000 élèves sont bénéficiaires et combien d'enseignants?
Je n'ai pas le chiffre exact des enseignants, mais bon, vous vous doutez bien, on a des classes qui sont quelquefois très grandes, avec 50-60 élèves par classe. Ça représente quand même, je dirais, un nombre assez important d'enseignants, peut-être quelques milliers, 2000 ou 3000 enseignants, quelque chose comme ça.
Monsieur le représentant, on voit plus le Japon. Est-ce qu'il y a d'autres partenaires sur lesquels le PAM compte pour ce programme de cantine scolaire?
Bien sûr, il y a beaucoup de partenaires. Le Canada est un de nos grands partenaires dans les activités de cantine scolaire. Mais nous comptons aussi beaucoup sur USAID, l'agence d'aide américaine, ECHO, l'agence d'aide européenne, l'Allemagne, la Belgique, la Suède, le Fonds commun humanitaire, ainsi que d'autres bailleurs. Mais je dirais, principalement, ce que nous voudrions voir, c'est une assistance et une implication du gouvernement congolais. Mon rêve, c'est que les enfants congolais puissent bénéficier des contributions, du financement du gouvernement congolais pour leur école.
Et pourquoi pas des privés congolais ?
Tout à fait, des privés congolais. Vous savez, il y a des tas de pays dans lesquels les privés sont des contributeurs très très importants à ce genre d'activité. Et je serais le plus heureux si le public congolais pouvait devenir un des contributeurs à cette activité. Je dis toujours que, en tant que parent, et je suis sûr que tous les parents qui m'écoutent le savent, nous n'avons pas de bien plus précieux que nos enfants. Donc, si nous avons quelque chose à investir quelque part, c'est l'investissement dans nos enfants. C'est pour ça que, personnellement, mais aussi pour tous les collègues du PAB ici, même si nous sommes là pour sauver des vies en apportant une assistance alimentaire à des gens qui sont quelquefois dans des situations terribles, nous pensons qu'un de nos rôles, une des vocations, c'est justement d'aider les enfants à aller à l'école à travers les cantines scolaires.
Alors, comment pérenniser dans la durée ce programme? Parce qu'à un certain moment, le PAM devra en transférer la responsabilité et la gestion au gouvernement.
Alors, une partie du programme et de toutes les activités que nous menons, c'est aussi le transfert des capacités au gouvernement. Donc, nous avons toute une série d'actions qui sont menées conjointement avec les autorités nationales, les autorités provinciales, pour que ces autorités-là puissent à terme, prendre la responsabilité directe de ces projets. Pour nous, ce que ça veut dire, c'est que dans les mois à venir, nous voudrions travailler avec le ministère de l'Éducation. D'ailleurs, j'ai rencontré son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation, il y a quelques jours. Il était là lors de la signature avec l'ambassadeur du Japon. Et ce dont nous avions discuté, c'est le besoin que, en RDC, soit élaboré aussi rapidement que possible, une politique nationale de cantine scolaire pour que tous les enfants congolais, au moins dans le primaire, puissent bénéficier de cantines scolaires. Vous devez savoir qu'il n'existe pas un pays développé qui n'ait pas, à un moment donné ou à un autre, mis en place une politique de cantine scolaire. Se soit assuré que ces enfants, ceux qui sont en primaire, reçoivent quelque chose à manger quand ils sont à l'école. Donc, il n'y a absolument pas de raison pour que cette activité ne devienne pas une des priorités du gouvernement de ce pays.
Monsieur le représentant du PAM en RDC, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le Mag UN revient sur ce SOS lancé conjointement par 3 agences onusiennes pour la famine qui menace l'ex-Grand Kassai. Selon la FAO, le PAM et l'UNICEF, sur 3,2 millions de personnes souffrant d'une grave crise alimentaire dans la région du Kassai, seulement 40 000 ont reçu une assistance en décembre dernier. Thérèse Kankou.
La FAO, l'UNICEF et le PAM dressent un tableau alarmant. D'après les représentants par intérim de l'UNICEF en RDC, l'état nutritionnel des enfants est particulièrement critique. Au moins 400 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë sévère. Ils risquent de mourir à moins de recevoir de toute urgence une aide en matière de santé, d'eau, d'assainissement et de nutrition, souligne Tajuddin Oyewale. Pour lui, la sécurité alimentaire à plus long terme doit être rétablie et les pratiques d'alimentation et des soins améliorées afin que les enfants puissent avoir accès à la nourriture des qualités dont ils ont besoin. De son côté, les représentants du PAM en RDC s'inquiètent du peu de moyens pour faire face à la situation. En sens que les donateurs commencent à contribuer, mais les ressources sont très insuffisantes au vu de l'ampleur de la souffrance humaine, indique Claude Djibidar. Il demande à ce que le gouvernement congolais et la communauté internationale se réengagent sur tous les fronts pour prévenir une famine majeure au Kassai. Mais pas le faire immédiatement et collectivement signifie que beaucoup de gens vont mourir, dit-il. Outre les Kassai, la situation humanitaire sur l'ensemble de la RDC s'est détériorée de manière significative en 2017.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Nous revenons encore sur cette question en rapport avec l'affaire Thomas Lubanga et la Cour pénale internationale.
Dans l'affaire Thomas Lubanga, il faut 10 millions de dollars pour les réparations collectives. Alors à qui les fonds seraient destinés? Comment va se passer la distribution de ces fonds à ces nombreuses victimes? Et puis qui va gérer les fonds? Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette question. Ce qu'il faut retenir par rapport à cette décision qui a été rendue, c'est que la mise en œuvre de cette décision sera faite par le fonds en profit des victimes. Mais comme vous le savez très bien, Thomas Lubanga est indigent. Donc les réparations collectives qui ont été accordées aux victimes dans cette affaire seront mises en œuvre par le fonds en profit des victimes. C'est la raison pour laquelle dans la décision qui a été rendue, les juges ont demandé au fonds de voir dans quelle mesure ils pourraient faire des efforts supplémentaires pour ce qui est du montant alloué, justement en voyant comment on peut avoir un peu plus de donations. C'est aussi l'occasion d'en profiter pour dire aux médias qu'il est possible à travers vos réseaux des médias de pouvoir encourager les uns les autres à pouvoir contribuer au fonds au profit des victimes, parce que les donations sont des donations volontaires qui sont faites par des États, par des individus, par autres, et c'est en fonction de ces donations que le fonds au profit des victimes peut faire face aux réparations lorsque l'accusé reconnu coupable est reconnu indigent. Tel est le cas de monsieur Thomas Lubanga.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, pour moi c'est Trésor Batachiana Kishala. Voilà, je suis administrateur national à la protection pour le bureau du ACR Badolité. Je suis marié à une très jolie femme, père d'une fillette. Je suis juriste de formation à l'Université de Kinshasa. Je suis au ACR depuis février 2015. J'avais commencé dans la province du Bas-Congo à l'époque, dans le bureau terrain de Kimvula. Et depuis lors, je chemine Bas-Congo, Katanga, Pueto Moba, Beni, Bounia. Et ensuite, je suis présentement à Bado, chargé de la protection. Ouf, la journée du travail. La première des choses, c'est lire les mails. S'il y a des mails très urgents auxquels il faut répondre, je commence toujours par là. Et ensuite, je reviens au planning de la journée, hein, que j'ai laissé, pour voir s'il y a des dossiers à traiter. Et ensuite, il y a tous les entretiens avec les réfugiés, l'orientation des collègues, l'orientation des partenaires. Voilà, donc c'est souvent comme ça. Donc c'est toujours une journée pleine. Oui, avant l'ACR, juste après mes études universitaires, j'étais employé chez Oxfam Québec, une ONG internationale. Et ensuite, depuis une année à l'Oxfam Québec, et depuis lors, je suis au ACR. Mon temps libre, je reste avec ma famille. Et souvent, c'est soit en écoutant un peu de musique, et bien le week-end, souvent, le samedi, dimanche, c'est plus le sport que j'ai fait le matin. Voilà, donc c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus. Et le soir, quand on a un peu de temps libre, je fais un peu de lecture. Voilà, pour un peu réfléchir. Et surtout, ne pas oublier les notions de droit que nous avions apprises à l'université. Oui, j'aime la musique chrétienne. La musique chrétienne, Laure Mbongo. Et la pauvre sœur Marie Missamo. J'aime beaucoup leur musique. Sport, je fais la marche, comme je l'ai dit, le week-end souvent. Le foot aussi, hein, je joue aussi au foot de temps en temps. Oui, en RDC, je suis supporter d'abord de l'équipe nationale, non Léopard, mais aussi les tout-puissants Mazembe. Mais aussi le plan international, c'est le Real Madrid. Cristiano Ronaldo. Oui, j'aime bien la nouveauté, j'aime la bonne cuisine. Congolaise. Oui, j'aime les pondous, les poissons et les foufous. C'est tous les poissons tilapia et comme il y en a beaucoup à Badolité, non, je me sens très bien. Oui, après les ACR, c'est vrai que tout débit a une fin, mais après les ACR, je pense travailler pour la nation congolaise, d'une manière ou d'une autre, pour la population congolaise, particulièrement les vulnérables. Voilà. Ah, ok, merci beaucoup, je salue mon papa, monsieur Léon Kishala Kiana, qui est un auditeur fidèle de Radio Okapi. Et je salue également ma femme et ma fille. Et je salue tous les collègues du ACR, tous les collègues partenaires. Et nous sommes là pour le travail du ACR. Merci beaucoup.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Voilà, notez dans vos carnets ces deux rendez-vous du calendrier des Nations Unies. Le 26 janvier, c'est la journée mondiale de la douane et sur l'éthique. Le 27 janvier, c'est la journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste. Voilà, c'est déjà la fin de ce magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en onde par Willem Lungamba. Honoré Msengatalala a été lu au reportage, Jean-Pierre Lali Coco à la coordination et à la réalisation. Et ce magazine a été supervisé par Julien Yamoni. On se dit à bientôt sur Radio Flappy. Portez-vous bien. Ciao.